prégnant. C'est-à-dire, c'est le corps, j'aime bien cette parole du pape Jean-Paul II, qui dit, le corps, c'est le langage le plus fort. Et ça peut, je trouve, prendre trop de place. Le fait d'avoir déjà, à l'étape où vous êtes, qui est en amont du mariage, en amont des fiançailles, etc., déjà une vie sexuelle, qui fait qu'on peut peut-être même résumer sa relation à ça. Vous voyez, c'est d'avoir une prégnance trop grande, et du coup une trop grande place, etc. Et ce qui fait qu'on ne développe pas d'autres formes de communion, comme par exemple la communion intellectuelle, la communion spirituelle, la communion artistique, etc. Mais bon, d'autres formes d'expression de l'amour, et que ça se résume à cette expression de l'amour, et que ça devient aussi une exigence, voire une habitude, etc. Et donc, je trouve que pour maintenir la liberté, et donc pour maintenir le discernement, la continence est vraiment au service du discernement. Je pense que c'est important aussi que vous puissiez... est-ce que c'est juste parce que j'ai du plaisir ou parce que tu me tiens chaud en hiver, etc. Ou alors, il y a vraiment un vrai désir. Je pense que le désir vient de l'absence, forcément. Plus on a de désir, parce qu'en fait, il y a quelque chose qu'on n'a pas, hein, qui est absent et que l'on voit comme un bien. Alors, autant c'est important d'avoir un désir sexuel et que chacun d'entre vous, vous ayez ressenti ou pas, le désir pour l'autre, à ce point de vue-là, si vous n'avez pas du tout de désir, ça c'est compliqué. Vous voyez, j'ai eu accompagné comme ça des garçons, mais aussi des filles, qui n'avaient pas du tout de désir. Et ça, je trouve que... alors, soit il y a un problème médical, bon, ça peut arriver, mais bon, là c'était... Parce que vous savez, le premier organe sexuel, c'est le cerveau. Donc c'est d'abord dans la tête que ça se passe, le désir sexuel. C'est qu'on voit l'autre sexe comme désirable. Donc voilà, donc je trouve ça intéressant. Mais de façon générale, Eros, c'est celui qui, c'est l'amour qui se comble, quelque part, l'amour qui prend, qui trouve dans l'autre quelque chose qu'il n'a pas lui-même. Et donc vous pouvez vous poser la question, de quelle manière vous vous complétez l'un l'autre? De quelle manière, qu'est-ce que j'ai moi et que tu n'as pas, qu'est-ce que tu as toi et que je n'ai pas? Vous voyez, qui fait que ça te rend désirable. Ça te rend non seulement au plan sexuel, mais ça te rend désirable comme personne, comme une personne humaine, du coup, voilà. Et c'est toi que j'ai choisi, ou je veux choisir, c'est pas le voisin, la voisine. Donc je trouve ça intéressant de travailler un peu sur cet amour Eros, hein, qui est présent et qui a une dimension, c'est intéressant, je le cite là dans le bouquin, le pape Benoît XVI, il dit l'Eros a aussi une dimension sacrée. Hein, vous savez, dans la Grèce antique, il y avait les prostituées sacrées, par exemple. Il y avait une dimension sacrée. On ramène ça à quelque chose parfois de plus animal que sacré, mais je trouve intéressant de voir tout le travail du pape Jean-Paul II sur la théologie du corps qui dit, au fond, notre corps a une vocation. Il y a quelque chose de sacré dans le corps humain. Et il y a quelque chose de sacré dans l'union des époux. Oui, donc voilà, je ne veux pas m'insister là-dessus parce que ce n'est pas vraiment le sujet de la préparation, ça, hein, voilà. Donc du coup, posez-vous la question, où est-ce que vous en êtes là-dedans, et dans quoi l'autre est désirable, etc. Ensuite, philia, donc c'est vraiment l'amour d'amitié. Je veux dire, il n'y a pas de différence entre amour et amitié. Il y a une différence, on peut dire, de degré, mais il n'y a pas de différence de nature. C'est-à-dire, au fond, l'amour est une amitié qui va jusqu'au partage de toute la vie et qui s'inscrit, tel que le conçoit l'Église, hein, dans le mariage, etc., dans un mariage indissoluble et fidèle. Mais ce n'est pas parce qu'on se marie qu'on cesse d'être des amis. Et c'est intéressant de se poser cette question-là. Hein, cette amitié, au début de votre relation, de votre histoire, bah, quand vous faites mémoire de votre histoire, etc., bah, vous rappelez tous, en fait, on parlait, on devisait en contemplant la grande ours, etc. Et puis ensuite, on a des tas de choses, des tas de points communs, c'est incroyable. Tu commences une phrase et je t'interromps. Voilà, non, tu commences une phrase et je la termine. Je commence une fois, voilà, c'est incroyable quand ça matche entre nous. Voilà, c'est qu'au début, vous êtes a priori, on se rue pas sur l'autre en disant, je veux absolument t'épouser sans connaître, sans partager, sans rien du tout. Non, parce que là vous partez en courant. À mon avis, c'est pas quelqu'un de complètement équilibré. Donc, mais l'amitié est venue comme une base au fond qui a et puis ensuite vous dites, est-ce qu'il y a pas plus entre nous? Est-ce qu'il y a peut-être un désir de l'autre, ensuite, et puis Là aussi, n'attendez pas, parce que certains disent, mais oui, mais moi, j'ai pas. Parce qu'il y a des fausses. C'est-à-dire, il y a des fausses manières de voir l'amour, parce qu'il traîne dans la société, dans le langage people, ou dans les films, un côté très romantique, comme si c'était le coup de foudre, comme si c'était quelque chose. Non, ça peut être quelque chose de plus simple, plus progressif, plus modeste aussi. Et je trouve, ça, même s'il y a un coup de foudre, s'il y a eu que, bon, il y a des personnes qui ont. Qui ont une grâce avec eux, comme ça j'ai un couple ami, etc. Son frère est venu la visiter, elle était en Argentine en mission, et il vient avec un ami, et en descendant de l'avion, elle a vu cet ami, elle dit, ce sera mon mari, ce sera l'homme de ma vie. Elle ne le connaissait pas, etc. Elle l'a vu, clac. Le fait qu'ils ont 7 enfants, donc hein, ça semble bien se passer entre eux. Voilà, mais bon, des trucs comme ça arrive. Mais c'est pas parce qu'il y a des coups de foudre qu'il n'y a pas de mettre du rationnel. Ça, si vous voulez l'entendre durant le week-end, c'est important de mettre du rationnel aussi. Parce qu'évidemment, il y a beaucoup d'émotionnel. Mais de rationaliser, disons, de mettre de l'intelligence là-dedans. De mettre de l'intelligence. Donc attention à cet amour fusionnel, cet amour romantique, cet amour où tout va bien. Oui, il y a une période certainement dans la relation, au début de la relation, où vous avez une période, j'allais dire, un peu sur un nuage, etc., etc. Mais je pense que c'est important de se rappeler que aimer, c'est vouloir, et vouloir, c'est aimer. C'est d'abord. Et si vous arrivez devant Monsieur le curé un jour, eh bien, il ne vous posera pas, est-ce que vous ressentez, est-ce que vous avez des papillons dans le ventre, des étoiles dans les. Il vous posera pas, il vous dit, est-ce que voulez-vous? En général, on répond oui. Bon, on peut répondre non, mais bon, c'est plus complexe ensuite, parce que tu as tous les petits fours, etc., qui attendent. Bon, donc, du coup, voilà. Donc, c'est bien. D'où la nécessité de cette retraite. Voilà. Donc, voilà. L'idée, c'est voulez-vous, de dire, ben, c'est vrai qu'à un moment donné, il y a de la vie de couple, il y a aussi une volonté qui prend le relais d'une sensibilité. Tout n'est pas émotionnel. On est dans une société tellement dans l'émotion, je trouve, et tellement peu dans la raison, etc. Mais tout n'est pas émotionnel. Hein, il y a une dimension de volonté, voilà, de moment où vous avez peut-être, vous êtes accroché, il y a un moment de tension dans votre couple. Voilà. Maintenant, si vous dites non, c'est trop compliqué, on est trop dans le volontarisme, voilà, à la force du poignet, etc. Ça, on ne peut pas durer toute une vie comme ça. Il faut qu'il y ait quand même une certaine facilité. On verra ça. Mais en tout cas, qu'à un moment donné de votre existence et de votre parcours, il y ait vraiment ce vouloir le bien de l'autre. Hein, on va voir ça tout de suite. Hein, vouloir le bien de l'autre. Et donc, Aristote, je vous l'ai dit, moi, mes études de philo m'ont pas mal marqué, etc. Aristote a travaillé, donc 4e siècle avant Jésus-Christ, a travaillé sur cette question de l'amitié, a fait tout un traité sur l'amitié, et qui dit l'amitié, c'est une condition du bonheur, et il donne des conditions à l'amitié. Et ça, j'aimerais travailler avec vous et réfléchir avec vous, quelles sont les conditions, parce que les conditions de l'amitié, ce seront les conditions de l'amour aussi. Vous avez compris, il y a une différence de degré, mais il n'y a pas une différence de nature. Hein. On se marie, on reste amis. Hein. Donc, la première dont il parle, c'est la réciprocité. La réciprocité. Ça se différencie de quelque chose qui est la relation d'aide. Je m'explique. Il est important qu'il y ait une réciprocité dans le don que vous faites l'un à l'autre. À la différence de la relation d'aide. Qu'est-ce qu'on appelle relation d'aide? Ben, le médecin et son patient, le parent et son enfant, le professeur et l'élève, etc., etc. Ou l'assistante sociale et la personne en précarité. Voilà. Ça, c'est une relation d'aide. Si vous êtes dans une relation d'aide, vous n'êtes pas dans une relation d'amour. C'est qu'il y en a un qui est un peu à la remorque de l'autre, et qui attend de l'autre quelque chose, etc. Et c'est un peu toujours le même. Hein. C'est soit qui attend une protection, soit qui attend d'être valorisé, soit qui. Mais voilà, on sent qu'il y a une. C'est pas tant les différences qui me, j'allais dire, qui me travaillent, que c'est pas tant les différences que les déséquilibres. Vous voyez, les déséquilibres dans la relation amoureuse, c'est-à-dire où on sent qu'il y a. Alors, c'est vrai, parfois il y en a un qui est plus avancé que l'autre dans la relation, qui est peut-être plus convaincu que l'autre. Hein, et donc, du coup, Bon, ça peut arriver parce que dans cette réciprocité, il n'y a pas forcément une égalité. Et puis il n'y a rien qui mesure, entre guillemets, la réciprocité, l'attachement mutuel. Il n'y a rien qui mesure ça. Donc, mais en tout cas, posez-vous la question. S'il y en a un qui est plus. Voilà, il faut vraiment que ce soit qu'il y ait une respiration. C'est pas j'ai l'impression d'être le moteur de la relation et que en fait et l'autre soit à la traîne, à la remorque, quoi. Parce que ça, à la fin, ça va être usant. Ça peut pas durer pendant des années et des années, une situation comme ça. Donc, réciprocité, ça veut dire, j'ai dit, une certaine égalité, entre guillemets, si on peut dire, dans l'attachement l'un à l'autre. Et alors, j'en parle dans le livre, la question de la théorie de l'attachement. Ça, c'est quelque chose qui est très important. C'est en psychologie qu'on voit ça, la théorie de l'attachement. L'enfant, quand il se construit, a besoin de figures d'attachement. C'est-à-dire se construit face à des figures stables, en général les parents, qui renvoient par leur présence, par leur proximité, qui renvoient l'image d'une figure d'attachement. Ce qui fait que l'enfant, quand il a une figure d'attachement à laquelle il peut s'identifier, est sécurisé dans l'amour. J'ai accompagné un couple cette semaine. Lui a ses parents divorcés. Et il me dit, quand j'étais enfant, et que c'était le tour du week-end de mon père, en fait mon père oubliait très régulièrement, et je passais des heures derrière la vitre à attendre la voiture de mon père, etc. Puis finalement, c'était ma grand-mère paternelle qui venait me prendre, et je passais le week-end chez ma grand-mère paternelle. Et je voyais mon père à midi, le samedi midi, le dimanche midi, mais rien de plus. Oui, donc ce garçon-là, qui a vos âges à peu près, autour de la trentaine, pour la majorité d'entre vous, vous avez cet âge-là, bah, je lui dis, mais tu as eu certainement une blessure d'abandon. À un moment donné, tu t'es senti abandonné. On ne peut pas ne pas sentir comme un petit garçon. On imagine le petit garçon, c'est même ça fend le cœur, derrière la vitre, attendant son papa, etc. Bon, bon mais il vient pas se dire, je n'ai pas de valeur. Je n'ai pas de valeur, j'ai pas de. Et du coup, comment cette blessure d'abandon, il l'a reconnue, comment cette blessure d'abandon, tu la gères? Il n'a pas été sécurisé dans l'amour. La difficulté de ça, c'est que vraiment, on veut, disons, guérir cette blessure-là avec l'autre. Oui, on veut que l'autre réponde à ce besoin d'être aimé. Et donc, on s'agrippe à l'autre, etc. Hein, ça peut se traduire par 5 fois par jour, il faut absolument qu'on se dise je t'aime, on se texte toutes les 2 minutes, etc. Etc. Bon, des gens d'une relation immature. Ça, c'est une relation immature. Où il y en a un qui a besoin d'être très tactile, souvent aussi, besoin d'être conforté, besoin d'être rassuré, besoin qu'on lui dise je t'aime, etc. Mais oui, une relation comme ça ne peut pas durer. Parce qu'il y a peut-être aussi un travail à faire sur vous-même si vous êtes dans une situation comme ça, si vous n'avez pas été sécurisé dans l'amour. Alors, on a des blessures dans notre amour. Aucun amour des parents n'est parfait. Il n'y a que l'amour de Dieu qui est plaigné. Et de ce fait-là, bah, c'est aussi l'expression du péché originel qui fait que bah, nous avons été blessés d'une manière ou d'une autre dans l'amour. Mais c'est vrai qu'il y en a certains qui ont plus souffert que d'autres. Et donc, qui sont à la remorque, et donc plus tu me suis, plus je te fuis. C'est-à-dire que ce besoin d'être rassuré, ce besoin permanent de réassurance, qui est épuisant, ça ne peut pas durer. Un petit passage, ça veut dire que peut-être avant de vous marier, vous avez autre chose à faire, qui est peut-être un vrai travail sur vous-même. Peut-être une dimension de guérison, pourquoi pas de thérapie, de revisiter votre histoire si vous avez comme ça reçu des blessures dans votre éducation ou un manque de sécurisation de vous-même, etc. Bon, maintenant, c'est là où c'est entre guillemets injuste. Mais voilà, c'est qu'on n'est pas égaux dans l'éducation, on n'est pas égaux dans la sécurité de l'amour, on n'est pas parce que les parents ont fait ceci, les parents ont fait cela. Bon. Mais c'est vrai que ça a un certain nombre de conséquences. Donc, cette question de la réciprocité qui est une première condition de l'amitié. Une autre condition de l'amitié, c'est l'égalité entre les amis. L'égalité entre les amis. C'est Aristote qui dit qu'il ne peut pas y avoir d'amitié entre un maître et un esclave, il ne peut pas y avoir d'amitié entre un maître et un disciple, entre un père et son fils. Il dit parce qu'il faut être égaux. Il ne peut pas y avoir d'amitié entre les hommes et les dieux. Hein, il ne peut pas y avoir d'amitié. Pour lui, il faut une certaine égalité. Alors, c'est intéressant de travailler cette question-là. Et c'est vrai que vous êtes aussi. S'il y a quelque chose de différent qui vous avez vu dans l'autre, qui vous a attiré, vous avez senti aussi qu'il y avait dans l'autre quelque chose que vous aviez en vous. C'est-à-dire qu'il y avait une certaine correspondance entre la personnalité de l'autre et votre propre personnalité. Et entre autres correspondances, je trouve ça important de souligner la communion de l'intelligence. Une certaine égalité dans l'intelligence, encore une fois, c'est en tout cas une communion, je crois peut-être le mot communion est plus, c'est une manière, disons, proche d'envisager personnes et événements. Hein, et un truc qui est un signe de cette communion de l'intelligence, c'est l'humour. L'humour, c'est justement, c'est que si, alors, c'est, je perçois quelque chose de drôle qu'exprime l'autre, parce que ce drôle, c'est, on met ensemble deux choses qui d'habituellement ne vont pas ensemble. Et donc, du coup, c'est ça qui est drôle. Mais s'il faut expliquer les blagues à l'autre, là, je vous souhaite bon et du courage. Je veux dire, parce que justement, c'est ça. Si l'autre ne rit pas à vos blagues ou trouve vos blagues complètement nulles, au fond, c'est pas du tout son. Non, mais c'est intéressant. Et donc, la manière percutée aussi au réel d'envisager, est-ce que vous sentez qu'il y a quelque chose? J'ai accompagné comme ça un couple. Elle est très solaire, elle était très solaire, elle est toujours très entrepreneuse, vraiment beaucoup de talent, beaucoup de. Lui, beaucoup plus lent. Non. Et à tel point que je me sers d'un parcours là, qui a été fait par d'autres là, pour préparer au mariage. Bon, des questions basiques, ce n'est pas des questions de théologie. Hein, c'est comment vous avez vécu votre vie de célibat ou la relation avec vos familles, des trucs de base. Quoi. Mais il fallait que je lui explique. Je lui dis attention là. Toi, tu ne percutes pas du tout comme elle. Au niveau de l'intelligence, ça va pas, ça va. Il y a un gap considérable entre vous deux là. Est-ce que vous avez remarqué ça? Alors elle se met à pleurer, lui non. Normal. Lui, il dit mais pourquoi tu pleures? Je lui dis rien que ça. Parce que si moi au bout de trois rencontres, je m'étais rendu compte de cette différence qui est quand même. Voilà, de finesse dans l'intelligence, de curiosité intellectuelle, etc. Forcément, ben, c'est ce qu'elle me dit après avoir séché ses larmes. La belle, elle me dit, ben oui, forcément, mes parents m'ont dit, mais est-ce que tu es vraiment sûr? On se sent assez, voilà, un peu à la traîne, où il ne suit pas les conversations à table, on sent que ça ne percute pas trop, quoi. Est-ce que tu ne vas pas t'ennuyer? Alors, elle me dit, oui, ma famille s'en est rendue compte, m'a fait la remarque. Mais quand j'étais avec d'autres garçons qui avaient mon profil, c'est-à-dire elle a fait les grandes écoles, etc., ils étaient toujours en compétition avec moi. Alors là, c'est sûr qu'il n'y a pas de compétition. Donc ça, c'est au moins, ça c'est fait. Pas de compétition. Et du coup, je ne me sentais pas à l'aise. Et j'ai trouvé dans cet homme-là une bienveillance que je n'ai pas trouvée dans les autres histoires amoureuses que j'ai pu avoir. Et donc, je trouve ça intéressant de dire que, et je pense que c'est elle qui le coach au niveau de sa carrière, c'est elle qui le booste pour un tas de choses. On sent qu'elle est, qu'elle ne s'épuise pas, etc. Et surtout, la difficulté, c'est que si un jour, tu rencontres quelqu'un qui lit à l'intérieur de toi-même, qui te comprend de l'intérieur, alors que l'autre ne te comprend pas de l'intérieur, qu'est-ce qui va se passer? C'est ça la question. Si quelqu'un, tu rencontres quelqu'un qui te comprend de l'intérieur alors que tu n'as pas l'impression d'être compris de l'intérieur par l'autre, ou moins, ou avec plus de difficultés, qu'est-ce qui va se passer? Forcément, il y aura une attirance à ce moment-là. Parce qu'on aime être compris de l'intérieur. Et donc voilà, donc moi je les ai un peu... finalement ils se sont mariés, etc. Ça, c'est, bon, je pense qu'ils sont... assez heureux ensemble, etc. C'est juste, quand je vois des choses comme ça, je souligne juste les trucs. Mais ça, c'est quelque chose qui est vraiment important, cette cette communion dans l'intelligence qui s'exprime par l'humour, qui s'exprime par la curiosité intellectuelle, qui s'exprime par... Voilà, on aime faire partager à l'autre des choses qu'on a découvertes et l'autre comprend ce qu'on a découvert. Parce que si aussi, il faut toujours réexpliquer tout. Il y a un certain nombre de prérequis. Il ne faut pas tout réexpliquer. On ne va pas renseigner l'alphabet. On va pas... A priori, il y a un certain nombre de choses de base qui sont acquises. Et ça, c'est important, ça. Et remarquez bien, dans vos amis, hein, je ne parle pas d'amour, mais dans vos amis, ce sont des personnes avec qui vous avez une communion dans l'intelligence. Et ça, c'est absolument... Quelqu'un avec qui on n'a pas de communion dans l'intelligence, ou il ne comprend pas, ce sera beaucoup plus compliqué d'être ami. Moi, je trouve impossible. C'est parce qu'il y aura une dissymétrie, il y aura un déséquilibre. Et qui voilà, je trouve ça. Donc, interrogez-vous sur cette question-là. Et puis, Aristote souligne une autre condition de l'amitié, qui est la visibilité. Les amis aiment être ensemble et rendre visible leur amitié, faire connaître leur amitié. La visibilité. La visibilité, alors ça me aime passer du temps ensemble. Ça m'évoque plusieurs choses. Premièrement, la question de la progressivité dans votre relation. Moi, je vous invite à une progressivité qui garantit la liberté. C'est-à-dire que, voilà, quand vous commencez, vous avez commencé une relation amoureuse, etc., progressivement, de la rendre publique. Mais pas tout de suite poster sur Facebook, sur Instagram, et tout le monde, le couple trop stylé, etc. Bon, n'importe quoi, je veux dire. Ça vous aide pas. Ah, vous êtes super beau, vous dites, non, on s'en fout. Ça vous aide absolument. Je pense qu'il y a une réserve au début de la relation qui permet, c'est ce qu'il y a un temps de connaissance. Je ne sais pas où est-ce que vous en êtes en termes d'étapes dans votre relation, etc. Si ça fait quelques mois ou quelques années, c'est pas pareil non plus. Et donc une progressivité. Une progressivité qui fait que, ben voilà, progressivement, on va présenter peut-être, si on voit que déjà personne n'est au courant, d'avoir une certaine réserve. Ensuite, peut-être son premier cercle d'amis, vous avez un premier cercle autour de vous, de personnes. Ensuite, bon, et ensuite, évidemment, la rencontre avec la famille, c'est quelque chose de très important. En même temps, je trouve ça important de rencontrer la famille de l'autre avant les fiançailles. Je trouve ça important parce que ça. Bon, parfois il y a des familles très traditionnelles, etc. Ils disent non, mais tant que t'as pas le statut de fiancé, machin, bon. Je ne trouve pas ça force, parce que c'est important de connaître la famille de l'autre. Pas forcément comme présentation officielle, etc., mais au milieu d'un groupe d'amis, ou durant des vacances avec des amis, ou avec les frères, de voir dans quel milieu l'autre a évolué, dans quel milieu l'autre a grandi, comment sa sensibilité a été forgé, c'est important ça. Vous connaissiez le. Parce que je me rappelle avoir accompagné comme ça une jeune fille, c'est-à-dire, mais finalement, ça. Elle a halluciné, elle ne connaissait pas la famille de l'autre, elle l'a connue le jour des fiançailles. Et là, elle est tombée à la renverse. Elle a dit, non, ça ne va pas être possible. Et de fait, maintenant, plus fiancée, rupture de fiançailles. Alors, pas qu'à cause de ça, mais entre autres, non, ça, c'est pas possible. Cette manière de fonctionner, cette manière de faire, je ne me sens pas. Parce que lui, il était un peu comme à l'appartement témoin, tu vois. Il était un appartement témoin, le beau gosse, intelligent, etc., etc. Bon, et puis, mais pas complètement rien à voir avec sa famille, quoi. Donc, du coup, elle dit, mais non, on dit, on n'épouse pas la famille. Si, d'une certaine manière, vous êtes en lien avec vos futures belles-sœurs, vos frères, vos parents. Bon, c'est important de savoir est-ce que vous sentez que. Voilà, vous avez aussi une connexion avec eux, etc. Alors parfois, il peut y avoir des familles très différentes, l'une de l'autre. Bon, on parlera ça de cet après-midi dans le rapport aux familles, les loyautés, etc. Mais je trouve ça intéressant le rapport à la famille. Donc, une progressivité, hein, je trouve. Et les fiançailles, pour le moment, c'est la seule étape avant le mariage que l'on a de visibilité, etc. C'est la seule chose qu'on est en rayon, entre guillemets. Bon, je trouve ça dommage, je trouve ça bon, qu'il n'y ait pas d'étape antérieure et de pour, voilà. Mais ensuite, mais il y a la question, il y a des personnes qui sont en célibat géographique, c'est-à-dire qui non seulement n'habitent pas ensemble, mais habitent dans des villes, voire des pays différents. Moi, ça, j'invite à une réflexion là-dessus. Je me dis, un petit warning, c'est-à-dire que le risque de ça, c'est de partager que les bons moments. Et que si on a des choses à se dire qui sont complexes, on les met sous le tapis. Parce qu'on est là que l'histoire d'un week-end, et on va pas se... ou qu'un week-end sur deux, parce que bon, le train ça coûte cher, etc. Bon, peut-être vous êtes étudiant, j'en sais rien, peut-être vous n'avez pas les moyens financiers de vous payer tous les allers-retours, etc. Bon, et du coup, et je trouve ça important, si vous êtes dans cette configuration-là, ça peut arriver, hein, encore une fois, ça peut arriver de... Mais si vous êtes dans cette configuration, pensez à prendre du temps un peu prolongé, un peu un temps long. Hein, ça peut être avec des vacances, avec un groupe d'amis, pour avoir un certain quotidien de l'autre. Autant la vie commune, je trouve, n'aide pas au discernement. Hein, 90% des couples qui se séparent ont été en vie commune avant le mariage, donc ça c'est contre-productif. C'est hyper engageant, etc. Sans discernement. Moi, j'accompagne des couples qui sont en vie commune ou pas en vie commune, etc. Mais je leur pose à ceux qui sont en vie commune, où a été votre discernement? En quoi le mariage sera un avant et un après? Donc ça n'aide pas la vie commune, je trouve ça. Je trouve qu'il y a une certaine distance qui est intéressante. Mais autant la vie commune, mais autant d'avoir des moments de partage du quotidien de l'autre. C'est-à-dire, parce que si vous êtes à 500, 600 km de l'autre, vous ne partagez pas le quotidien, même si vous vous appelez. Mais d'avoir des temps, en tout cas, un peu longs, où vous voyez l'autre évoluer dans son quotidien, où il y a une certaine facilité de relation, par exemple, pendant les vacances ou des choses comme ça. Donc je pense que c'est quelque chose qui est important. Et puis, une autre condition que Aristote met comme pour l'amitié, c'est la bienveillance. C'est la bienveillance. La bienveillance, c'est-à-dire vouloir le bien de l'autre. Et vous posez la question, est-ce que aussi vous êtes la bonne personne pour l'autre? Est-ce que vous rendez l'autre heureux? Autant c'est important d'être heureux seul. Autant c'est important de savoir vivre seul. Là encore, des personnes qui ont des difficultés avec la solitude et qui voient la vie de couple comme un remède à leurs difficultés dans la solitude, ça va dans le mur, ça c'est évident, ça va dans le mur. Donc autant c'est important d'avoir une vie seule, mais autant c'est important aussi de se dire, mais on est davantage heureux ensemble. Il y a plus de joie à être ensemble que de joie à être seul. Ce vouloir le. Est-ce que je suis la bonne personne? Est-ce que l'autre me correspond? Est-ce que je correspond à l'autre? Il m'arrive souvent, je l'ai encore dit cette semaine, de dire à des couples, écoutez, je ne pense pas être la bonne personne pour vous accompagner. Parce que je vois un certain nombre de choses dans votre vie de couple, je sens que ça va être compliqué, l'accompagnement, ça va être compliqué, ça va. Je ne suis pas la bonne personne. J'ai encore dit cette semaine, par exemple, un couple, je lui ai dit, écoutez, moi. Je vois les choses dans votre couple qui sont vraiment problématiques, etc. Mais bon, peut-être un autre. Voilà, faut avoir une certaine humilité, dire qu'on ne résume pas soi-même tous les accompagnements. Il y a des personnes avec qui, même dans l'accompagnement spirituel, c'est-à-dire qu'un accompagnement individuel, eh bien, je prends deux, trois rencontres pour voir si je suis la bonne personne. Parce qu'il y a des personnes avec qui ça ne matche pas, ou qui attendent autre chose, je sais pas quoi, qui sont très, bon, je pense voir les personnes très apparitionnistes, très, voilà, je dis, moi, ça, c'est-à-dire qu'ils voient des apparitions partout, c'est bon. Voilà, moi, bon, ça, c'est un truc, accompagner ça, moi, je me sens absolument pas d'accompagner ça. Moi, c'est pour ça que j'ai aucun mystique parmi mes accompagnés, quoi. Parce que je suis vraiment nullissime. Hein, si vous êtes mystique, ne me demandez rien, parce que si vous voyez le ciel ouvert et les anges, etc., devant le Seigneur, ben c'est très bien pour vous, hein, mais ou pas, j'en sais rien. Mais toujours est-il que, bon, accompagner un mystique, c'est particulier, par exemple. Bon, c'est quand même, ça se fait rare ces temps-ci, les mystiques, mais bon, ça peut arriver. Et donc, moi, j'y crois, hein, que les personnes qui ont des grâces du ciel, comme ça. Mais voilà, de se dire, est-ce que la bienveillance, cette volonté, et je me rappelle que ça d'un couple qui avait donné son témoignage, il disait, ben, plus ça allait, plus je sentais l'autre triste. Et plus je sentais que la personne, sa fiancée, ils étaient déjà fiancés, se renfermait. Et du coup, lui a proposé une séparation. Il dit, je ne suis peut-être pas la personne qu'il te faut. Et finalement, c'est un happy end, etc. Et 2 ans se sont passés, elle est partie aux États-Unis pour des stages, pour des études, etc. Elle est revenue, elle l'a rencontré de façon assez providentielle, assez un peu impromptue, comme ça. Et puis finalement, ils ont re... Voilà. Mais c'est intéressant, est-ce que... On va voir comme critère aussi, on verra ça demain, mais d'avoir une joie d'être ensemble. Ça, c'est... une joie d'être ensemble. Et c'est vrai que la question de l'âge peut être une difficulté, c'est-à-dire que, singulièrement pour les femmes, de dire, voilà, des personnes qui sont plus avancées en âge, je veux dire, qui ont au-delà de 35, voire 40 ans, etc., célibataires, ça peut être, je trouve, moi j'interroge toujours, et si vous aviez 15 ans de moins, est-ce que vous seriez avec cette personne-là, quoi? Est-ce que... ou pas, quoi? Est-ce que... voilà, parfois, on... par les situations de vie ou les différences d'âge, on accepte des choses qu'on n'aurait pas acceptées 10 ans avant. Voilà, donc, vouloir le bien de l'autre. Est-ce qu'on est vraiment la bonne personne pour l'autre, hein? Ensuite, Aristote dit qu'il y a plusieurs motifs à l'amitié. Il y a plusieurs motifs. Il y a l'agréable, l'utile et aimer l'autre pour lui-même. L'agréable, l'utile et aimer l'autre pour lui-même. L'agréable, a priori, vous appelez, en tout cas, c'est bien que ça fonctionne comme ça, le fait d'être ensemble doit être plus agréable que le fait d'être séparé. Parce que si vous êtes séparé et vous sentez mieux d'être séparé, ben voilà, le discernement, il est fait, quoi. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin. En fait, je suis heureux quand elle n'est pas là et malheureux quand elle est là. Bon, ok, bon, ben alors du coup, là, écoute, je t'explique, là, il ne faut pas sortir de politique nique ni d'être grand clair. Là, ça ne va pas le faire. Donc, il y a une. C'est agréable. Hein? Et alors, utile. Aristote, il y a une amitié parfois qui est utile. C'est vrai qu'il y a des amitiés qui naissent, et encore une fois, c'est assez poreux entre ces différentes notions de motif de l'amitié. Il dit, en fait, l'amitié utile, c'est que. Vous avez peut-être expérimenté ça dans vos études, vous étiez dans un groupe de travail, vous étiez, etc. Puis finalement, vous avez. Vous étiez attelé à réaliser un travail sur ceci, sur cela, ou même avec des collègues. Il y a beaucoup de relations amoureuses qui naissent à l'intérieur même du milieu professionnel. Donc, milieu professionnel, on est là ensemble pour une tâche utile, hein, qui est notre travail, et chacun apporte, etc. Hein, maintenant, voilà, c'est le côté utile. Alors, c'est sûr, si toi, tu dis, moi, j'ai ma voiture, j'ai une voiture, mais pas de permis, et toi, tu as ton permis, mais pas de voiture, bon, ça peut être le début, ça peut être en tout cas le début d'une relation, mais pas la totalité de la relation. On n'est pas là que pour voilà, que l'autre nous soit utile, même si on se complète, mais ce n'est pas que utile. Voilà. Mais c'est intéressant de dire qu'il y a aussi cette dimension-là. Et puis, aimer l'autre pour lui-même. Et ça, ce n'est pas si simple que ça, je trouve. C'est la personne de l'autre pour ce qu'elle est, non pas tant ce qu'elle a. Et quand je dis ce qu'elle a, je ne parle pas d'aspect matériel, mais d'aimer l'autre. Pour, parce que imaginons que l'autre soit au fil, ben, on voit ça, vous voyez ça chez vos grands-parents par exemple, etc. Moi, bon, le grand âge, bon, l'autre est diminué, mais sa personne n'a pas changé. Peut-être il perd la faculté d'une agilité intellectuelle, la faculté d'une agilité physique, etc. Il y a des facultés qui sont plus au rendez-vous, ou à cause de maladies, ou à cause d'accidents, etc. Mais la personne reste la même. Hein, un exemple qui n'est absolument pas à suivre, c'est l'exemple de la maîtresse de Mussolini. Mussolini avait une maîtresse qui, voilà, et qui arrive, débarquement des Américains, puis des troupes françaises aussi, bon, et qui, donc Mussolini est renversé, et on dit à sa maîtresse, si vous voulez, on a une petite porte pour vous faire partir vers l'Amérique latine, c'était dans ces œuvres-là, pour vous. Il dit non. Hein? Je l'ai aimé dans la vie, je l'aimerai dans la mort. Et ils ont été fusillés ensemble. Oui. Ben, c'était pas simplement parce que c'était la personne du Duce, et qu'à un moment donné, il avait le pouvoir, et il avait, etc., et que, bon, avec une toute-puissance de dictateur, etc., mais c'était sa personne à lui, à laquelle elle était attachée. Hein. On voit dans le film, qui est maintenant un film mythique, hein, le Love Story, justement, Love Story, ce film-là, ben justement, c'est intéressant de voir l'héroïne qui est attachée, hein, à la personne de l'autre, hein, même si l'autre et en train de. Ou les, oui, le héros plutôt, c'est la fille qui est un malade, c'est là qui petit diminue, petit. Bon, et voilà. C'est pas parce que. Alors, c'est pas facile, est-ce que de mesurer l'attachement qu'on a à la personne de l'autre, et non pas simplement aux qualités de l'autre, à ce que nous apporte l'autre. Et si l'autre n'avait plus ses qualités, est-ce que je serais attaché à sa personne? C'est pas si facile à. Et j'allais dire, avec le Seigneur, c'est assez semblable. Hein, c'est-à-dire que c'est pas juste parce que les. Comme dit Thérèse d'Avila, on n'aime pas Dieu uniquement pour les cadeaux de Dieu, mais pour le Dieu des cadeaux. Je veux dire, c'est pas parce que je reçois de l'autre et que voilà, il y a une certaine compensation, etc. Mais c'est pour la personne de l'autre, la personne de Dieu lui-même, à laquelle je suis attaché. Donc c'est cette question de la des motifs dans les motifs dans l'amour, etc., les motivations qui sont assez intéressantes, hein. Et c'est vrai que des déceptions dans l'amitié, dit Aristote, vient qu'on n'est pas ensemble pour les bonnes raisons. On n'est pas ensemble pour, parce qu'il y a certains, c'est simplement c'était pour l'agréable, et l'autre, ben non, en fait, moi c'était vraiment ta personne à laquelle je suis attaché, simplement juste parce que c'est agréable. Et dire, ah ben aujourd'hui je t'aime plus parce que c'est pas. Ouais, on entend ça. Ah maintenant je t'aime plus parce que quoi, c'est pas agréable. C'est complètement immature, vous voyez. Ça, parce que justement, l'amour est dans la volonté, dans une vraie volonté, une bienveillance, vouloir le bien. Donc on dit, ah maintenant je ressens plus rien, je suis plus. Non. Bien sûr qu'il y a des émotions, etc., dans une relation amoureuse, mais ça doit être relayé par la volonté, par une vraie décision. Hein, parce qu'on. Parce qu'on a un vrai attachement à la personne de l'autre. C'est pas juste parce que c'est agréable. Donc je trouve ça intéressant de pouvoir. Alors c'est vrai que c'est assez poreux aussi, les frontières entre agréable, utile et bienveillance. C'est on peut, encore une fois, pour commencer par. On était collègues, etc., donc une relation utile, puis finalement on s'est vu à l'extérieur, c'était agréable, on s'est vu puis finalement, voilà, on a une vraie bienveillance, il peut y avoir une évolution, hein, un passage dans ces différentes formes d'amitié, c'est pas cloisonné, c'est important de se rappeler ça. Hein. Mais c'est vrai que j'allais dire, les déceptions sont faites souvent, viennent souvent, parce qu'on n'est pas ensemble pour les bonnes raisons, pour les mêmes raisons en tout cas. D'où c'est important de vérifier les raisons pour lesquelles vous êtes ensemble. Ensuite, la dernière, donc Eros, Philia, et la dernière forme d'amour, c'est l'amour d'agapé, c'est l'amour à la manière de Dieu. C'est l'amour qui donne sans attendre de retour. Alors que l'Eros est un amour qui prend, alors que la philia, c'est un amour qui donne et qui prend, donc dans une réciprocité, l'agapé, c'est un amour qui donne sans attendre de retour. Alors c'est vrai que c'est l'amour à la manière de Dieu, parce qu'on a, c'est quelque chose, ça a été inventé presque pour les chrétiens, pour découvrir, pour exprimer l'amour tel que le Dieu des chrétiens l'envisageait. On a pris ce mot en grec, agapé. Alors dans la vie de couple. Alors, on verra un peu plus tard la partie de la foi et de la vie spirituelle, hein, mais c'est intéressant de se dire aussi, est-ce qu'il y a des étapes dans la vie de couple, surtout lorsque l'autre est en assez grande fragilité, où je suis dans une dimension justement d'agapé, je suis dans une dimension de don et de don gratuit sans attendre de retour. Il peut y avoir une dimension comme ça dans une vie de couple due à la fragilité de l'autre, etc. Maintenant. C'est important de cet amour. Je trouve que le cœur quand même de la vie de couple, c'est l'amour d'amitié. C'est vraiment cet amour d'amitié et ensemble d'être se laisser aimer par Dieu, Dieu qui donne sans attendre de retour. Hein, ça, mais c'est ensemble. À propos de cette place de Dieu, moi j'aime bien. Alors je ne sais pas du tout où vous en êtes dans votre vie spirituelle, ni entre vous. Peut-être qu'il y en a un qui est plus attaché, plus à fond, etc. Bon, maintenant voilà, vous en êtes là où vous en êtes. Et c'est déjà super déjà ce fait, cette démarche. Mais j'aime bien, justement pour la place de Dieu, j'aime bien méditer sur les noces de Cana. Vous vous rappelez ce passage des noces de Cana, que Jésus invitait avec les disciples et invité à des noces, et avec aussi la Vierge Marie, etc. Et puis, au cours des noces, il n'y a plus de vin, et Jésus dit, remplissez ces jarres de vin, ces jarres qui servaient à la purification des Juifs, d'eau, remplissez-les d'eau, et puis Jésus fait le miracle et transforme l'eau en vin. Et c'est souvent ce qu'on prend comme évangile de mariage. Hein, parfois c'est un peu lassant, on se dit, oh, mais encore les noces de Cana, etc. Bon, voilà. Mais ensuite, quand on regarde bien les noces de Cana, je trouve qu'il y a quelque chose dans les noces de Cana qui est vraiment intéressante, c'est que au cœur de tout amour, il y a un manque. Au cœur de tout amour, il y a un manque. Manque de vin, mais au cœur de toute relation, il y a, ça veut dire quoi? Je n'ai pas à être comblé par l'autre. Il y a quelque chose auquel l'autre ne répondra pas. Et qui est la place aussi de la transcendance, qui est la place de la verticalité. Parce que vouloir être comblé par l'autre, c'est de l'idolâtrie. C'est mettre l'autre à la place de Dieu. C'est quoi l'idolâtrie? C'est mettre quelque chose ou quelqu'un à la place de Dieu. Lui demander d'être notre tout. De même, si vous allez vers un mariage, si vous avez des enfants, vos enfants ne sont pas votre tout. Et l'importance de la vie spirituelle, c'est que justement, vous avez quelqu'un qui est votre tout, qui est la personne du Seigneur, à laquelle vous vous unissez dans la prière, mais qui vous permet d'être en communion avec votre conjoint, avec vos enfants. D'une certaine manière, l'autre ne sera jamais le premier. Et l'assurance d'une vie spirituelle et d'une vie de prière, etc., je trouve c'est important parce que c'est, ça redit, je trouve parfois vous mettez trop la pression. Vous mettez trop de pression. Comme s'il fallait, et on voit, c'est un peu diffusé dans la société, etc., occidentale, comme si cette amitié devait être fusionnelle, cet amour devait être fusionnel, faut être dans la performance, performance affective, performance sexuelle, performance relâche. Bon, on est dans la performance. Non. Et je trouve que c'est quelque chose qui n'est pas en place. C'est quelque chose de plus modeste, qui nous est plus grand à la fois et plus modeste. Hein. Mais de dire, ben, il y a. Et ce qui manque, au fond, c'est cette place de Dieu dans votre couple. Alors, je ne sais pas où vous en êtes, si vous avez déjà eu des temps de prière ensemble, si vous avez, je ne sais pas si vous êtes déjà de la même religion, si vous êtes tous baptisés, s'il y en a qui sont peut-être pas baptisés, etc., bon, ou d'autres religions, bon. On verra plutôt dans l'après-midi avec le rapport aux familles, bon, mais en tout cas, le manque de verticalité dans un couple, met le couple en danger. Le manque de verticalité, le manque de temps de prière, de temps de silence, parce qu'on demande à l'autre, tôt ou tard, d'occuper la place de Dieu. Et du coup, forcément, il ne tient pas la distance, c'est évident, et donc forcément, à un moment donné, on va lui reprocher de ne pas répondre à mes attentes. Donc voilà, je pense que c'est intéressant de travailler là-dessus et d'être assez attentif là-dessus. Ensuite, aussi, un dernier point peut-être, cette croissance dans l'amour. Le fait d'aimer, le mariage n'est pas le sommet. Hein, le mariage, ce n'est pas le sommet de l'amour, ce n'est pas le top du top. Après, ça se casse la figure, jusque dans la vie éternelle, etc. Bon, non, le seul mariage, une étape, mais prenez conscience que si vous vous engagez l'un envers l'autre, si après discernement, etc., vous vous engagez dans une croissance dans l'amour, c'est-à-dire à avancer ensemble. Et que dans 10 ans, dans 20 ans, ben vous ayez plus davantage d'attachement l'un à l'autre, et que vous ayez découvert d'autres choses, parce que vous avez vécu d'autres choses, bien souvent il y a des enfants qui arrivent, etc. Bon, tout ça, forcément, ça bouscule les choses. Hein, donc de se dire que vous rentrez dans une dynamique. Et juste un petit point sur la fidélité, par exemple. La fidélité, eh bien... on la voit simplement comme ne pas aller voir ailleurs, c'est-à-dire ne pas poser des gestes avec une personne extérieure que l'on pose avec son conjoint, mais la fidélité, elle est dynamique. C'est-à-dire la fidélité, vous rentrez dans une dimension, qu'est-ce que je peux donner que je n'ai pas encore donné ? De ma sensibilité, de ma vie spirituelle, de ma vie intellectuelle, de mon habileté manuelle, qu'est-ce que je peux donner que je n'ai pas encore donné ? Je rentre dans une logique de don. Et donc, de se dire qu'au fond, Dans la relation amoureuse, on rentre dans une logique de don et de croissance du don. Voilà. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Est-ce que ça vous inspire des questions particulières? Vous n'hésitez pas à m'interrompre, même si c'est pas, je pense, que c'est relativement clair. Mais bon, est-ce que ça vous inspire des questions ou pas?